Radio Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Uvira, dans le sud du Sud Kivu. Voici les titres de votre journal. Journée ville morte décrétée ce samedi sur toute l'étendue de la ville et les territoires d'Uvira au Sud Kivu. C'est pour dénoncer l'assassinat hier en début de soirée du président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Uvira, disent les structures des mouvements citoyens de la région. À Beni, au Nord Kivu, des ONG et associations impliquent la population à briser le silence et dénoncer les violences basées sur le genre. Ces associations féminines et autres ONG de défense des droits de l'homme rappellent que la sensibilisation pour lutter contre ces violences passe par l'implication des femmes et des hommes, tous victimes de ces violences. Notre invité dans cette édition est Maître Dieudonné Kaboulo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme du Tanganyika, CNDH. Il dresse le bilan cette année de la situation des droits de l'homme dans cette province. Mesdames, Messieurs, bonjour au Sud Kivu. Journée ville morte décrétée ce samedi sur toute l'étendue de la ville et les territoires d'Uvira, lancée par les structures et mouvements citoyens de la région. C'est pour dénoncer l'assassinat du président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Uvira. Espoir Richard Sadiki était aussi candidat député provincial de la circonscription électorale d'Uvira. Il a été tiré à bout portant dans son véhicule hier vers 19h, non loin de son domicile en pleine ville, alors qu'il rentrait pour battre campagne dans un quartier d'Uvira. Des détails avec Fiston Goma.
Espoir Richard Sadik Ndabouye stationnait son véhicule en face de l'hôpital général lorsqu'un homme armé et en uniforme est venu s'arrêter à moto à côté de la portière. Le malfrat tira 3 coups de feu à bout portant sur la victime. Un conducteur de moto qui assistait à la scène derrière le véhicule de Richard a été lui aussi tiré à bout portant. Le client qu'il transportait à bord de la moto a été touché par balle. Richard et les motards succomberont à leurs blessures après leur évacuation à l'hôpital. Aussitôt après l'attaque, des jeunes gens sont descendus dans la rue, brûlant de pneus au lieu du crime. Ce matin, les barricades sont érigées à plusieurs endroits sur l'artère principale de la ville. Il n'y a pas de circulation, toutes les activités sont paralysées. Les acteurs des structures et mouvements citoyens condamnent cet assassinat et exigent une enquête minutieuse sur cet acte qu'ils qualifient d'ignoble. Signalons que depuis une semaine, des cas d'attaque, de braquage sur la route et de kidnapping se sont multipliés dans les territoires d'Uvira, ciblant principalement 5 candidat député en pleine campagne électorale. D'Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, s'est rendu hier vendredi au quartier Ndanou, à Kingabwa, dans la commune de Limété. C'est après les violents affrontements qui ont eu lieu jeudi dernier entre la population du quartier Ndanou et l'équipe de campagne de Gérard Moulumba Didier Koko, candidat député et vice-gouverneur de Kinshasa. Plusieurs blessés graves, dont une jeune dame touchée à l'œil, des biens matériels vandalisés et emportés par des bandits urbains communément appelés Kuluna, ont été enregistrés. Parmi les nombreux blessés, près de 20 ont été conduits d'urgence à l'hôpital Saint-Bernard et à l'hôpital Saint-Jérôme. Les cas graves ont été acheminés à l'hôpital militaire d'Ndolo pour des soins appropriés. C'est ce qu'indique un communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa, publié hier vendredi. Alain Irung a décortiqué ce communiqué.
Arrivé sur place, Jean-Tini Ngobila a d'abord témoigné de sa compassion ainsi que de celle du chef de l'État à l'endroit de la population de Ndanou, puis il a écouté les témoignages de la population sur les contextes ayant entouré ce drame, affirme le communiqué. Selon les récits recueillis sur le lieu, tout a débuté dans la journée de mercredi lorsque Gérard Moulumba, vice-gouverneur et candidat à la députation provinciale et nationale, a effectué une descente dans ce quartier pour sensibiliser la population en faveur de son élection. Mais sa présence dans ce quartier a provoqué des agitations du fait qu'il est considéré comme personne non grata dans ce coin. Et du coup, les choses ont tourné au pire, enseigne le communiqué. S'adressant à la population, l'autorité urbaine a d'abord condamné ces actes de barbarie, tout en appelant les habitants de Ndanou au calme et à l'unité, et surtout à éviter de faire couler le sang pendant cette période électorale. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a instruit le bourgmestre de la commune de Limété de répertorier toutes les personnes touchées par ces affrontements, ainsi que tous ceux qui ont perdu leurs biens afin de voir, dans la mesure du possible, comment les assister. Il a fait savoir que le chef de l'État est indigné par ces actes de barbarie et a promis de rendre visite à cette population dès son retour dans la capitale.
Et tous nos efforts pour joindre le vice-gouverneur incriminé n'ont pas encore abouti. Pendant ce temps, à la veille des élections combinées du 20 décembre, le président Rex Kazadi a entamé la campagne de proximité pour persuader les électeurs quinois. Dans son meeting populaire tenu dans la commune d'Ndjili, le candidat numéro 10 a opté, une fois élu, de promouvoir la santé universelle gratuite pour tous. Il a également promis de faire la sécurité des personnes et de leurs biens son cheval de bataille. Plus de détails avec Blaise Nongala Mayanda.
Pour faciliter l'accès aux soins de santé gratuits de qualité, le candidat Rex Kazadi se propose, une fois porté à la magistrature suprême, de subventionner les grands hôpitaux et de payer des salaires décents aux professionnels de la santé. Pour ce faire, il attend défalquer 20% des fonds envoyés chaque fois par des Congolais de la diaspora pour financer le système de santé de la RDC. Le candidat numéro 10 a également promis de faciliter l'accès à l'éducation et de créer l'emploi en vue de décourager le gangstérisme communément appelé phénomène Kuluna à travers les grandes villes du pays. Dans sa vision politique dénommée Ekokiesila, le candidat Rex Kazadi se propose également de restaurer la sécurité dans l'est de la RDC en renforçant les effectifs de l'armée et de la police. Il souhaite en outre améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme en payant un salaire de 400 dollars américains au moins gradé. Ce candidat présidentiel estime qu'avec une armée organisée et équipée, le pays saura faire face à toutes les agressions extérieures, notamment celles du Rwanda et de l'Ouganda. Rex Kazadi compte par ailleurs supprimer certaines institutions budgétivores comme le Sénat en vue de canaliser ses fonds à d'autres services publics.
Et pour sa part, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain poursuit avec sa campagne dans les Haut-Katanga. Ce samedi, il est attendu dans la ville de Lubumbashi, en provenance de Likasi, ville située à 120 km de la capitale du cuivre. Bien avant, Moïse Katumbi a battu campagne dans la commune urbano-rurale de Fungurume, dans les Lualaba. Et par la suite, il a rallié la ville de Likasi dans les Haut-Katanga. Des détails avec Jean Gandou.
Au cours de son meeting, tenu au stade de la mission catholique, situé dans le quartier Kalingile, bloc 50, Moïse Katumbi est revenu sur les projets qu'il avait réalisés lorsqu'il était à la tête de la province du Katanga. C'est notamment la réhabilitation de la route qui part de Kasumbalesa à Kolwezi passant par Fungurume. Dans la foulée, il a également épinglé l'électrification de la cité. C'était avant qu'il ne demande aux nombreuses personnes présentes de lui faire confiance en lui accordant leur voix. À noter qu'une vive tension était observée entre les militants de l'UDPS et ceux de Ensemble pour la République, peu avant que Moïse Katumbi n'arrive dans cette commune urbano-rurale. Et nous apprenons qu'un policier a été agressé par des inconnus et il serait interné dans un hôpital de Fungurume. Interrogé à ce sujet, le bourgmestre de Fungurume indique que l'incident s'est produit loin de son entité à Tenke. Après Fungurume, Moïse Katumbi a mis le cap sur la ville de Likasi dans le Haut-Katanga, où il s'est adressé à ses sympathisants réunis massivement dans la commune de Kikula. À la fin, il a sollicité le suffrage de tous ceux qui croient en lui, afin qu'une fois aux commandes, il traduise en acte son projet pour le développement du pays. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En bref, la SADC attend déployer une mission d'observation des élections du 20 décembre prochain en RDC. L'annonce est faite par le chef de la délégation d'une mission de l'organisation en RDC. Reçu par le directeur de cabinet du ministère de l'intégration régionale, Enoch Kavindele, est revenu sur l'objet de la mission, à savoir l'observation des scrutins du 20 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, la SADC encourage les Congolais, où qu'ils soient, à participer massivement à ces scrutins qui sont l'expression de la démocratie. Notons que le lancement officiel de cette mission d'observation électorale de la SADC intervient ce samedi au fleuve Congo Hôtel, ici à Kinshasa. À moins de 6 jours des élections combinées du 20 décembre prochain, l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur a organisé jeudi dernier en Mbandaka une conférence débat sur l'éducation électorale. 50 journalistes de la ville y ont pris part. Ils doivent sensibiliser la population à travers les radios communautaires sur sa participation active. Ce projet est appuyé notamment par Internews, USAID et FHI 360. Le point avec Paul-Richard Malingela.
À l'occasion de la remise symbolique de brevets aux 150 policiers du GEM Équateur, le chef de projet du PARP 3 s'est félicité de leur remise à niveau durant 5 jours en matière de technique et de manœuvres tactiques, ce qui leur permettra de participer à la gestion des foules avec le plus grand professionnalisme, a indiqué Jean d'Angleterre. Car, a-t-il ajouté, l'objectif est de voir ces éléments assurer leur mission avec efficacité, tout en respectant le droit constitutionnel de manifester, mais aussi dans le respect des droits humains que contiennent les textes juridiques nationaux et internationaux ratifiés par la RDC. Une bonne application de cette formation, a conclu ce responsable du PARP 3, droit éviterait l'usage de la force qui ne peut que constituer une exception dans la gestion de la foule pendant ce moment sensible du processus électoral. Outre le brevet, chaque apprenant a été doté d'un équipement de protection individuelle par le projet, ce qui a suscité l'expression de gratitude du commissaire provincial de la PNC Équateur, le commissaire divisionnaire Placide Niembo, à l'endroit de toutes les parties prenantes pour des élections apaisées à l'Équateur. Bondaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Parlons de cette réaction du gouvernement congolais au nouveau mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, porté par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, depuis la République du Kenya, et relayé dans les réseaux sociaux. Dans une conférence de presse tenue hier vendredi ici à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement traite l'attitude de Corneille Nangaa d'antipatriotique. Patrick Muyaya ajoute que cela va entraîner des conséquences diplomatiques entre la RDC et le Kenya, où l'ancien président de la centrale électorale a lancé son mouvement aux côtés des représentants du M23. Patrick Muyaya est au micro de Paul Matendo.
Je pense que c'est un comportement antipatriotique et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives. Il y aura évidemment des conséquences diplomatiques. En tout cas, il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place. Peut-être que les VPM étant en campagne, mais sur le principe, le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe.
Notons que Patrick Muyaya a fait cette déclaration lors de la présentation de la nouvelle carte d'identité imprimée par l'Office national d'identification de la population, ONIP, avec l'appui logistique de IDEMIA, une entreprise américaine. Et puis, dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences basée sur le genre, notre dernier reportage de la semaine revient sur l'implication de la population dans la lutte contre les violences basées sur le genre et briser ainsi le silence. Les associations féminines et les ONG de défense des droits de l'homme rappellent que la sensibilisation pour lutter contre ces violences passe par l'implication des femmes et des hommes, tous victimes de ces violences. Éminence Bengue, coordonnatrice de l'AFNAC, Association des femmes pour la nutrition et assise communautaire, revient sur la méthodologie mise en place par la structure pour atteindre cet objectif. Elle est dit au micro de Blaise Makassi.
Les activités que nous menons, c'est d'abord les activités de la prévention dans différentes couches de la population, dans des églises, dans des organisations de jeunes. On les montre les sortes de violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Nous faisons maintenant des activités d'encadrement des femmes et des jeunes pour lutter contre les violences basées sur le genre. Nous formons les jeunes à l'autonomisation. Quand une jeune femme peut être autonome, elle ne peut pas subir beaucoup de violences basées sur le genre. Et nous les demandons de dénoncer toutes sortes de violences basées sur le genre et toutes sortes de violences sexuelles. Les femmes ont eu beaucoup de formations par rapport à ça. Mais les hommes ne sont pas formés par rapport à ces violences basées sur le genre. Si on pouvait aussi organiser des formations aux hommes, leur montrer les conséquences de ces violences basées sur le genre, en tout cas, je crois que ça peut changer. Ensemble avec les hommes, nous pouvons lutter contre toutes ces violences.
Actualité internationale.
Le Gabon reste suspendu jusqu'à nouvel ordre des activités de la CEAC. Ainsi ont décidé les chefs d'État de cette institution d'intégration régionale à l'issue du sommet tenu hier vendredi en Guinée équatoriale. Cependant, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, n'est pas rentré bredouille à Libreville. Au Sénégal, 4 militaires ont été tués dans l'explosion d'une mine anti-char au passage de leur véhicule en Casamance, région du sud du Sénégal, en proie à une rébellion indépendantiste, a annoncé hier vendredi l'armée.
L'invité.
Notre invité dans cette édition est Maître Dédoné Kaboulo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme du Tanganyika. Il dresse le bilan cette année de la situation des droits de l'homme dans cette province. Il s'entretient avec Paul Mounanga.
Maître Dédoné Kaboulo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis les débuts de cette année, quels sont les cas que vous avez pu répertorier, donc des cas de violation des droits de l'homme dans la province?
Cette année, les cas que nous avons pu répertorier, ils sont nombreux. Le premier cas, C'est par exemple d'abord le problème de la vie des prisonniers dans le lieu de détention. Nous avons parlé tout au long de l'année comment les prisonniers sont mal encadrés, très mal gérés. Il y a beaucoup de décès dans la prison de Kalemie. Vraiment, ce sont des grandes violations des droits de l'homme sur le plan de la détention. Nous avons aussi à un certain moment répertorié les cas de tracasserie de la population, surtout au niveau des barrières hein, qui sont dans l'axe Lubumbashi, l'axe Bendera et puis l'axe Nyonzu. Il y a beaucoup de tracasseries des hommes en uniforme. Mais les grandes violations que nous sommes en train de déplorer jusqu'à nos jours, c'est cette tracasserie qui est sur l'axe Bendera. Donc sur cet axe, chaque jour au moins, il y a les pillages de la population qui passent.
Qui sont en train de perpétrer ces pillages?
Nous sommes dans une confusion pour le moment. D'abord, au début, là, c'était le peuple toi qui était en train d'intercepter les gens sur la route. Il pille les biens, il s'enfuit sur la route. Mais présentement, là, il y a même les hommes en uniforme, les militaires qui les font. Ils recrutent les jeunes sur cet axe-là, ils leur donnent les armes et puis ils se cachent en brousse. Ils commencent à intercepter les gens et pillent les histoires. J'ai beaucoup parlé. J'avais d'ailleurs écrit une lettre pour cette situation au gouvernement provincial. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette situation perdure. Il n'y a pas de solution claire. C'est comme si l'autorité de l'État ne se fait pas sentir sur cet axe-là. Ils ont catégoriquement échoué de sécuriser la population qui passe sur l'axe Bendera, puisque chaque jour, il y a au moins deux ou trois cas.
Et en rapport avec le prisonnier, la vie de misère qu'ils sont en train de vivre, et vous avez alerté les autorités, est-ce qu'il y a-t-il eu un suivi?
Nous faisons le suivi, mais les autorités, bon, ils répondent tant bien que mal, hein, mais ce n'est pas vraiment efficace. Puisque quand je vous dis, dans cette prison-là, il y a des morts presque chaque jour. Par mois, vous pouvez compter 15 morts. C'est normal, ce n'est pas normal. Nous avons compris la situation de cette prison. C'est une prison qui a été conçue pour 250 personnes. Mais maintenant, elle reçoit plus de 800 prisonniers. Et maintenant, les gens vont vivre dans quelles conditions? Imaginez-vous, ils passent nuit en rotation. Certains se tiennent debout et les autres dorment. Hein? Après un temps, les autres dorment et les autres se tiennent debout. C'est comme ça qu'ils dorment. Puisque nous avons pu rencontrer les prisonniers, même pour qu'ils nous disent comment est-ce que vous vivez ici. C'est déplorable. Et quand vous entrez dans cette prison, vous allez trouver les gens très minces, mal nourris. Les maladies qui ne sont pas vraiment bien traitées, c'est pourquoi il y a beaucoup de décès.
Et en cette période préélectorale, nous sommes pratiquement pendant la campagne électorale. Est-ce qu'il y a eu des cas de violation des droits de l'homme que vous avez pu constater?
Bien sûr que oui. Nous sommes des grands observateurs du processus électoral, en commençant par l'enregistrement des candidatures des candidats députés. Pendant la campagne, nous observons, et même les élections proprement dites, nous allons observer. Nous avons beaucoup regretté pendant cette période de la campagne. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Postuler, c'est un droit civique qui est lié à la personne, toute personne. Et en mesure de postuler, lorsque elle réunit les conditions qui sont prévues par la loi électorale. Donc lorsque vous réunissez ces conditions-là, vous postulez, il n'y a pas de barrière. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que pendant la période de campagne, c'est devenu une période où il y a des injures.
On arrache même les affiches.
On arrache les affiches de certains candidats, tels que les cas que nous avons vécu la fois passée.
Maître Dieudonné Kabolo, merci d'avoir répondu à nos questions.
Et c'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, Maître Dieudonné Kabolo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme du Tanganyika. Il s'entretenait à Kalemie avec Paul Mounanga. Ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Alain Irung, coordonné par Jacques-Yves Moulima et mis en onde par Polydor Basunga. À leur nom, je vous dis infiniment merci de l'avoir écouté.